Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les 5 derniers... Ah non, il y en a plus, les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la mort de... Jean-Marie Le Pen. On retiendra de sa longue vie qu'il a été camarade de jeu des tortionnaires de l'armée française durant la guerre d'Algérie, après avoir tenté de briller en Indochine, qu'il a été le plus jeune député de l'Assemblée nationale en étant élu poujadiste du nom d'un défenseur du petit commerce dont le syndicat, l'UDCA de Poujade, était raciste et anticapitaliste, n'aimait pas trop les métèques et les pédérastes, qui était une insulte largement utilisée, notamment par Jean-Marie Le Pen. En 1972, Le Pen lance sa propre boutique avec des anciens de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, un groupe terroriste qui défend l'Algérie française, et au moins un ancien SS, ça sera le Front National. Il fera commerce de la haine des étrangers durant 40 ans, avant de se faire virer par sa propre fille qui continue à faire commerce de la haine des étrangers, mais dans le Rassemblement National. Ah ben c'est plus pareil. Il est mort et des milliers de personnes dans toute la France ont fêté cette mort, ce qui a permis à pas mal de gens de dire leur effroi face au fait que on soit en train de fêter la mort de quelqu'un. Le ministre actuel de l'Intérieur s'en est ému, par exemple. Marlène Schiappa s'en est élue. Et pourtant, hein, elle a lutté contre l'antisémitisme, l'extrémisme, etc. Oui, bah, d'ailleurs, elle a été élue au Mans et on a bien vu qu'elle luttait... Ouais, c'est ironique. Le monde est sans doute moins moche quand même depuis que Jean-Marie Le Pen ne peut plus ajouter de saloperies sur les PD, les juifs, les étrangers et les roux d'ailleurs. Et depuis qu'il ne peut plus adoucir également l'occupation allemande entre 1940 et 1944 après s'être fait passer pour un résistant. Mais il a une descendance qui continue son œuvre et des admirateurs qui vont dans le même sens. De fait, le combat continue. On aurait pu vous parler de la campagne de publicité vue au Mans pour promouvoir Le Mans. Dans sa carte de vœux et l'édito de Au Mans de janvier, le journal municipal de janvier 2025, le maire du Mans prévient qu'il veut faire de 2025 l'année de la fierté. Je lis « Cette année sera placée sous le signe de la fierté, soyons fiers de notre territoire et de notre ville. Je suis bien conscient des difficultés que rencontrent de nombreuses familles, de nombreux habitants et nous serons là ». Pour soutenir les personnes les plus impactées dans ce contexte économique difficile. Eh ben, on espère, parce que c'est quand même l'idée de tous ces représentants de servir la population. Oui, oui, pas de se servir soi-même, non, de servir la population. Ensuite, le président du conseil municipal revient sur les travaux qui gênent et il enchaîne. Mais... avec un peu de patience, les efforts paieront et nous pourrons alors célébrer la métamorphose de notre beau territoire. Notre métropole sera encore plus verte, encore plus accessible, encore plus belle, encore plus moderne. Le changement doit susciter une fierté d'être Mancelle et Manceau, Sartoise et Sartois. Toujours plus en pleine concurrence avec le reste des territoires, parce que c'est quand même ça qui est à l'œuvre. Faire en sorte que son territoire à soi soit plus attractif que le territoire des autres. La concurrence en bandoulière, voilà ce que nous propose Stéphane Le Foll, maire du Mans, mais aussi les édiles départementaux et la plupart des gens qui sont censés nous représenter. Pourquoi ? Eh ben parce que pour eux, il est très 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 important de continuer dans cette idée de concurrence. La fierté obligatoire, hein, ça doit susciter. La métamorphose doit susciter une fierté. La fierté obligatoire, on n'a pas le choix. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est vert. Vous avez peut-être vu un petit peu partout en ville, tiens, ben, par exemple, rue Docteur Leroy, qu'il y a des endroits où il est indiqué « Là, il y aura un arbre bientôt. Là, il y en aura un autre. » Ouais, bientôt. Ah ben c'est sûr que quand on a abattu 400 arbres pour faire les chronolignes, à un moment il faut faire croire aux gens qu'il y aura bientôt plus d'arbres qu'il y en avait auparavant. Alors est-ce qu'ils vont supporter les sécheresses, le trop de flotte, le dérèglement climatique, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y en aura. Donc comme c'est vert, comme c'est attractif, seulement au milieu de cette beauté, de cette verdeur et de cette attractivité, les pauvres s'entasseront toujours dans des quartiers périphériques. Les inégalités sociales n'auront pas été combattues. Eh oui, il est vrai que quand on essaye de faire en sorte d'attirer des cadres, tiens, bah d'ailleurs, ils sont cités dans l'édito. C'est la clé pour attirer des professions médicales, des étudiants, des cadres, tous les professionnels cherchant un meilleur cadre de vie. Voilà. Des cadres. Ah bah ouais, c'est sûr, moi aussi je veux attirer des cadres. Pourquoi? Bah parce que ça fait sans doute plus joli dans le centre-ville. Et puis bah comme ça, ils pourront aller à la visitation. Et quand ils sont très très vieux, bah ils iront à l'EHPAD qui est juste derrière et qui coûte la peau du dos. Bah oui, c'est pas pour tout le monde non plus. Donc bah les inégalités sociales et spatiales n'auront pas été véritablement combattues. On va continuer à faire des quartiers pour riches, des quartiers pour pauvres. Ce serait bien d'accentuer la mixité sociale. Stéphane Le Foll est pour la croissance sûre. On en a déjà parlé, il a commis des bouquins sur le sujet. Une croissance qui s'inscrit très bien dans l'égoïsme et la concurrence libérale. C'est pour ça que se mettre en concurrence avec le reste des territoires, il n'y a aucun problème. Que les villes tentent autre chose, hein, ce serait peut-être pas mal d'appliquer d'autres valeurs. Je m'avance un peu, mais ça sera l'objet de l'émission à partir de septembre 2025. Vous avez vu le teaser à 9 mois. Oh la vache, le mec mais c'est n'importe quoi. Et j'en profite pour vous indiquer la création d'un collectif. Jeudi 16 janvier à 18h à l'Allumette, 7 rue de la Marne. On vous rappelle que l'Allumette, c'est un centre social autogéré qui est ouvert le mercredi et le samedi, qui fait bon accueil, hein, de 14 à 18 heures, si mes souvenirs sont bons. 7 rue de la Marne, donc dans le quartier de Pontlieu, de 14h à 18h les mercredis et samedis. Et puis, pour un certain nombre d'activités diverses et variées, pour le reste de la semaine, mais là, il y a un calendrier un petit peu plus précis. Moi, je vous enjoins à les contacter. L'Allumette, 7 rue de la Marne, il y a plein de numéros de téléphone. Il y a aussi des... Je ne les ai pas notés là. Il y a aussi un Facebook. Il y a aussi... Il y a plein de trucs. Mais allez les voir, de 14 à 18 heures le samedi, par exemple, ou le mercredi. Donc, jeudi 16 janvier à 18h à l'Allumette, réunion d'un tout nouveau, d'un tout jeune collectif nommé Écologie sociale et communalisme. Pour les auditeurs assidus, cela rappellera la pensée de Murray Bookchin, mais aussi le forum qui a eu lieu en septembre dernier à la chapelle Saint-Aubin en présence de Floréal Romero, dont nous avions fait une petite interview quand il était passé à la librairie Thuard. Et pour les émissions d'octobre-novembre, vous pourriez retrouver ça. Une vidéo d'une des conférences qui a eu lieu en septembre 2024 est regardable sur le site écologiesocialetcommunalisme.org, en un seul mot, écologiesocialetcommunalisme.org. Pour finir avec l'édito de Stéphane Le Foll, à la fin, il est écrit: face au conservatisme, au relent identitaire, aux intérêts personnels qui oublient bien souvent le collectif, face aux pourvoyeurs de la division, restons unis. Ouais, soyons unis, ok, mais pour afficher notre fierté territoriale qui, de fait, permet de concurrencer tous les autres territoires. J'ai bien peur qu'avec ce genre d'opposition, les conservatismes, les relents identitaires et les intérêts personnels aient de beaux jours devant eux. On aurait pu vous parler de l'impossibilité de vivre dehors. En effet, à Valenciennes cette semaine, un SDF de 38 ans est mort de froid. Oui, et c'est pas le premier de l'année et c'est pas le dernier. On apprend ce fait incidemment en même temps que le nombre de bagnoles qui ont versé dans le fossé à l'occasion d'un épisode de froid et d'un épisode neigeux. Parce que sinon, mais à aucun moment on entend parler de ce genre de choses. Et pourtant, des statistiques non officielles indiquent que 300 000 personnes sont considérées comme SDF, avec plusieurs milliers d'enfants parmi ces 300 000. Des hommes, des femmes, qui souvent ne vivent pas très très vieux, la moyenne... L'espérance de vie calculée par le collectif des morts de la rue est d'environ 48 ans. 48 ans en France, oui, on apprend ce fait parce qu'il y a eu un épisode neigeux, mais sinon... Et oui, l'épisode neigeux a fait 2 morts. Quelqu'un qui est tombé par terre, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être s'est-il cogné la tête et tout, j'ai pas creusé. Et 1 mort de froid. Et voilà comment on nous donne ce genre d'informations. Pourtant, les morts de la rue pourraient faire la une des journaux tous les jours. Drôle de société qui peut laisser des humains sans abri pour dormir et de fait les exposer à la mort. Le collectif des morts de la rue fait un drôle de boulot lui aussi. Il recense les morts de la rue et il essaye de leur donner autant que faire se peut une existence et parfois fait des petites enquêtes pour essayer d'alerter les proches de ceux qui sont à la rue. Et puis une sépulture également. Il y a un côté un peu religieux dans l'idée. Et c'est pas le cas des autorités. On aurait pu vous parler de Nicolas Sarkozy, qui entrait pour la énième fois dans un tribunal pour gérer une de ses casseroles lundi 6 janvier. Ce coup-ci, c'est pour l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Une affaire pour laquelle, en août 2024, l'éternel invité des plateaux télé avait indiqué, alors qu'on lui servait la soupe, c'était sur TF1 ou un truc comme ça, hein. Mais alors, monsieur Nicolas Sarkozy, dites-nous pourquoi c'est pas vous. Oh là là, mais c'est pas moi. Mais c'est pas... Et en plus, personne n'y comprend rien. Il avait balancé des noms, il avait balancé des chiffres, il avait balancé des faits, et il a dit à la fin, personne n'y comprend rien. Eh bien, personne n'y comprend rien, c'est justement le titre d'un documentaire à partir des enquêtes de Fabrice Arfi et Karl Laske de Mediapart. Yannick Kergoat réalise un film pour tout comprendre en revenant sur les personnages et les faits. Alors, bah, le film qui existe grâce au financement participatif est à voir dans les meilleurs cinémas. Je ne sais pas si au cinéaste ça passera. Ça m'étonnerait que ça passe au méga CGR ou au gros pâté. Donc si vous voulez y comprendre quelque chose, eh ben essayez de trouver ce film « Personne n'y comprend rien » de Yannick Kergoat pour savoir pourquoi Nicolas Sarkozy passe en procès encore là du 6 janvier jusqu'au 10 avril. On aurait pu vous parler des soldes. Les soldes qui commencent. Nos soi-disant représentants nous aiment en consommateurs avides de bonnes affaires. Prêt à perdre du temps et de l'énergie pour gagner quelques euros sur un produit dont nous n'avons pas forcément besoin. Mais hé, c'était pas cher. Ok. Alors, y a des gens qui font le tour de la ville pour aller d'un endroit à un autre pour faire les fameuses bonnes affaires. Et d'autres perdent leur vie également en allant sur Internet pour chercher le prix le moins cher. Mon Dieu. Mais on est largement plus grand que ça. Hein. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des êtres humains. Alors, si un de vos proches parle avec des étoiles dans les yeux d'aller céder au fameux achat plaisir. Essayez de glisser un ou deux arguments sur les conséquences de la production sur nos milieux, hein. À l'heure de l'extinction du vivant, peut-être que... S'il vous traite de pisse froid, c'est mal barré. Tentez d'aborder alors la frustration et le bourrage de crâne de la publicité qui le mène par le bout du nez. Puisque de fait, on sait que c'est souvent le fait d'avoir une vie frustrante qui nous amène à céder, par exemple, grâce à un petit peu de pognon, au fameux achat plaisir qui, une fois qu'il est effectué, nous apporte pas beaucoup de compensation à cette frustration. De plus, souvenez-vous quand même qu'on nous bourre le crâne à longueur de journée en nous faisant croire que nous avons absolument besoin de ça. C'est quoi ça? À quoi ça sert? Personne n'en sait rien, mais comme tout le monde là, nous aussi, il faudrait qu'on en ait un. Alors le coup du bourrage de crâne et de la frustration qu'il mène par le bout du nez, il vous assure qu'il est libre et que rien ni personne ne l'oblige à consommer, c'est encore plus mal barré. Sortez alors l'artillerie lourde en lui rappelant qu'avec ce genre d'attitude, on laisse une planète invivable à nos enfants. S'il vous répond « je m'en balèque, j'ai pas de gamin », c'est que vous avez perdu le contact. Le proche en question est totalement irrécupérable. Et s'il vous dit « je m'en balèque, mes gamins sont grands », c'est la même. Et s'il vous dit « je m'en balèque, de toute façon, c'est mort », laissez tomber, quoi. Acheter pour le plaisir est un comportement de compensation, tandis que créer et construire, fabriquer pour le plaisir est terriblement humain, puisque nous ne sommes pas des consommateurs, mais plutôt des créateurs. Alors attention, tout ça, créer, construire, fabriquer, avec des matières premières locales, biodégradables et en pensant à la déconstruction. Eh, c'est pas facile de respecter son milieu, hein. Toute une éducation à refaire. On aurait pu vous parler d'écologie punitive. Cette expression fait florès dans les milieux libéraux. Gagner du pognon. On va pas mettre des entraves à la liberté du commerce. Mais par exemple, il faudrait arrêter de produire des trucs qui polluent. Non, mais ça va pas, non. Donc, dans les milieux libéraux, les milieux climato-sceptiques, puisque je vous rappelle quand même que le problème du dérèglement climatique n'existe pas. Non, vous êtes au courant. Donald Trump a été élu et il le dit. Donc s'il a été élu, c'est qu'il a raison. Non ? Et qu'est-ce que j'ai loupé, là ? Donc les libéraux, les climato-sceptiques et bien sûr les technosolutionnistes, ceux qui nous disent que, d'accord, il y a un souci, mais attends, il y a un machin bidule, là, dans son laboratoire qui va te trouver une jolie solution à un problème qui est lié à l'utilisation de techniques. Et puis, s'il y a un problème avec la nouvelle technique, on trouvera une nouvelle technique pour résoudre le problème de la nouvelle technique. Mais attends, c'est connu, ça ! Donc dans les milieux libéraux, climato-sceptiques et technosolutionnistes, il y à cette fameuse écologie punitive. En clair, chez tous ceux qui veulent continuer à gagner du pognon plutôt que nous faire vivre sereinement en société en laissant une place à tout le monde. En Californie et dans plein d'endroits, de milieux beaucoup moins médiatisés, parce que moins remplis de stars du sport, de la télé et du cinéma, c'est surtout l'absence d'écologie qui est punitive. Il faudrait quand même arrêter de se cacher derrière notre main comme des gamins de 4 ans en se disant « tu ne me vois pas ». Le système économique prédateur actuel est mortifère. Il tue et détruit par le dérèglement climatique. Maintenant, on le sait, ça fait des années même qu'on le sait. L'activité humaine est la source de ce dérèglement. Alors, faudrait changer d'activité. Il faut vraiment être d'un égoïsme sans faille pour ne pas comprendre ça. Mais là, c'est pareil. Si vous avez un ami qui vous dit « voilà, moi, j'ai fait un super... Une super affaire là, grâce à ce que je viens de vendre à une entreprise qui va donc utiliser le nouveau brevet pour une solution, non, qui n'apportera pas que des solutions, mais aussi des problèmes au changement climatique. Et moi, je vais m'en mettre plein les fouilles, ce qui va me permettre d'aller faire des petits tours d'avion, en veux-tu, en voilà. Comme un François Bayrou, par exemple. Celui-là aussi, essayer de l'attraper par des arguments, essayer de l'attraper... Par le fait qu'il est juste la victime de la société puisqu'il essaye de se conformer au fait d'essayer de vivre comme des riches et puis à la fin tenter quand même votre chance avec les gamins. Bon, vous aurez sans doute un je m'en balèque, hein. Finalement, on a préféré vous parler de quoi ? De la Grèce. On a préféré vous parler de la Grèce parce qu'en décembre dernier, l'Assemblée Générale Antifasciste du Mans, ou de la Sarthe, je ne sais plus, ça existe, hein, en effet, ils organisent régulièrement des petits trucs, et là, le petit truc en question, je dis des petits trucs, mais ce n'est pas tout à fait le mot que nous devrions utiliser, que je devrais utiliser. En décembre dernier, donc, l'Assemblée Générale Antifasciste organisait la projection d'un film à la Maison du Citoyen-Citoyenne, Place des Comtes du Maine. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour voir « Nous n'avons pas peur des ruines » de Yanis Yuluntas. Mais qui est-ce ? On écoute nous le dire.
Donc Yanis Yuluntas, réalisateur ici et formateur en philosophie sous différentes formes, notamment atelier philo avec les enfants et recherche en philosophie de la crise.
Voilà, il est philosophe, il est poète, il est écrivain. On a pu lire sa prose, entre autres, dans Ciné Mensuel, dans Zélium jusqu'en 2016. Tiens, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le magazine Zélium, pour dire que cet irrégulomadaire sort son numéro 13. Il est sorti au mois de septembre, je crois. On peut l'acheter au Lézard, au Barouf et chez Doucet. Voilà. Et donc, Yanis Yuluntas participe également à la tentative de présenter José Bové à l'élection de 2007 avec Michel Onfray, qui a beaucoup changé depuis. Il a participé à la promotion de différents documentaires avant de se lancer lui-même dans la création de films avec des courts-métrages, tout d'abord à partir de 2011, et un premier documentaire en format long, « Ne vivons plus ». Ne vivons plus comme des esclaves, c'était en 2013. Il récidive en 2015 avec Je lutte, donc je suis, qui nous emmène de Grèce en Espagne à la rencontre des luttes de ces deux populations. Puisque l'idée, c'est quand même de montrer justement les luttes pour l'autonomie qui permettent aux populations d'être un peu moins dépendants de nos soi-disant représentants. Vous l'aurez deviné, Yanis Yuluntas est plutôt libertaire. En 2018, il fait l'amour et la révolution. L'idée est, à partir d'une citation, de voir que, comme les amoureux, ceux qui luttent se mettent dans des positions un petit peu inconfortables, mais que finalement, l'amour et la révolution ont beaucoup, beaucoup de points communs, ce qui permet de parler des luttes en question. Ces trois films, et bien d'autres choses, sont visibles sur le site paspeurdesruines.net. paspeurdesruines.net. Et donc en 2024, justement, un nouveau documentaire intitulé « Nous n'avons pas peur des ruines ». Nous n'avons pas peur des ruines car nous construisons un monde nouveau. C'est le nouveau de 2024. Alors, il n'est pas visible directement sur le site paspeurdesruines.net parce qu'il est en tournée depuis plusieurs mois et pour plusieurs mois encore dans toute la France pour promouvoir justement les luttes qui ont lieu en Grèce, donner des informations depuis l'amour et la révolution qui date de 2018 et qui avait été réactualisé en 2019 avec une version plus longue. Alors on a eu l'occasion de parler avec Yanis Yuluntas et on lui a demandé déjà de nous en dire un peu plus sur le film.
Tu es au Mans pour ton quatrième film. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de ce film ?
Nous n'avons pas peur des ruines, dont le sous-titre est plus important encore. Nous portons un monde nouveau dans nos cœurs, c'est-à-dire... Nous sommes dans une situation où je pense que beaucoup de monde se sent en difficulté, inquiet de l'avenir par rapport à l'environnement, par rapport aux inégalités sociales, par rapport à la situation démocratique qui est vraiment tout sauf démocratique, à la situation guerrière aussi, à l'international, au niveau géopolitique. Bref, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il y a de la socio-anxiété, de l'éco-anxiété, de l'angoisse, du désespoir aussi, de la résignation parfois. Et donc nous, on propose une alternative à ça. À travers ce film qui est une synthèse d'une grande partie de ce qui se fait dans le mouvement social en Grèce, avec des concertations, avec des assemblées, avec des propositions concrètes que nous font les camarades et les compagnons en Grèce, en l'occurrence d'essayer de prendre nos vies en main, dans l'autogestion, dans l'auto-organisation, dans l'horizontalité. Et le plus impressionnant, c'est que ça marche. Ça marche même très bien. Par exemple, quand l'État détruit la santé, le système de santé pour les plus pauvres et même ne rembourse pas bien pour les visites médicales ou les médicaments pour les autres, nous arrivons à créer des structures autogérées de santé qui soignent des dizaines de milliers de personnes et qui arrivent à convaincre ainsi, parce que c'est mieux que des tracts, que de montrer dans la forme concrètement comment on peut avoir des solutions concrètes. Voilà, c'est une atmosphère particulière en Grèce, avec cuisine solidaire, avec de l'accueil, de l'hébergement pour les précaires grecs et migrants, et aussi plein d'idées dans le mouvement social pour bloquer les actions injustes du gouvernement sur beaucoup de plans et qui sont complètement impopulaires. Donc il y a un mouvement fort en Grèce, il continue d'être fort même s'il ne réussit pas toujours à atteindre ses objectifs. Et c'est une façon pour nous de vous informer à l'autre bout de l'Europe.
Un film donc qui sert à montrer les propositions concrètes qui sont nombreuses encore actuellement, car les mesures d'austérité prises à partir de 2010 en Grèce ont toujours cours. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé sur la Grèce, je vous recommande un film de M. Costa Gavras qui s'appelle « Adulte dans cette pièce ». Et qui relate justement la façon dont les Grecs ont été maltraités par la fameuse Troïka, l'Union Européenne, le FMI et la Banque Mondiale, pour être sauvés. Sauvés de quoi ? Je vous le demande. Donc c'est pourquoi dans ce film, nous n'avons pas peur des ruines, Yanis Yuluntas nous montre par exemple des dispensaires autogérés qui pallient le manque d'hôpitaux et surtout le manque d'accueil dans les hôpitaux qui restent, puisqu'en Grèce comme en France, c'est le fait de travailler qui donne accès à la sécurité sociale. Et comme le taux de chômage qui est monté jusqu'à 30% en 2013 est actuellement de 10%, ça fait encore pas mal de monde qui n'a plus vraiment de couverture sociale. Une couverture sociale qui s'est largement dégradée depuis la signature du premier mémorandum d'austérité entre les autorités grecques et celles de l'Union européenne. En septembre 2014, l'excellent mensuel de critique sociale CQFD, façonné à la main à Marseille, commettait un dossier intitulé « Ne plus rien attendre de l'État ». Et dans ce dossier, il y avait un article faisant état des lieux de la santé en Grèce et qui racontait ce qui se passait justement dans les dispensaires autogérés, dispensaires sociaux, comme on les appelle là-bas. L'article est toujours lisible sur le site de CQFD, cqfd-journal.org, cqfd-journal.org, et dans la petite barre de recherche, vous tapez Grèce. En 2016, un livre aux éditions Sileps, intitulé « Les dispensaires autogérés grecs », était vendu pour financer les actions de l'association Solidarité France-Grèce pour la santé, l'une des nombreuses associations de solidarité avec le peuple grec. Un moyen de décrire l'expérience autogestionnaire et de récupérer des sous. Et les dispensaires sociaux restent d'actualité, même si les médias relaient la bonne santé de l'économie grecque en 2023 et 2024. Car, comme dans la plupart des cas, l'accroissement du produit intérieur brut, alors ici c'est 2% de hausse pour 2023, alors quand en France c'est à peine 1%, on se dit « Waouh, la chance qu'ils ont !» L'accroissement du PIB, souvenons-nous quand même que dans la plupart des cas, eh bien, ce n'est pas un accroissement généralisé de la richesse, hein, et les plus pauvres ne voient pas la couleur de cette hausse qui est la plupart du temps accaparée par une petite partie de la population qui possède les moyens de production. Eh ben oui, on a ça, pas changé depuis le 19e. Dans ce film, nous n'avons pas peur des ruines. Les dispensaires autogérés ne sont pas les seules initiatives émanant directement de la population pour prendre en main sa vie. On compte aussi des médias qui informent autrement que la télé du coin. D'ailleurs, dans ce documentaire, mais aussi dans les précédents, hein, je vous rappelle qu'ils sont visibles sur paspeurderuines.net, eh bien, on s'aperçoit que la télé, les informations qui sont données, que ce soit en Grèce ou dans le reste du monde occidental, sont toujours un petit peu biaisées par le but étant de dire que heureusement que l'État est là et que nos représentants nous représentent pour nous aider à survivre dans ce monde de bruit. Je ne sais pas s'ils sont les plus compétents. Eh bien, du coup, dans le film, on peut voir justement ces histoires de médias. Il y a des médias qui informent autrement que la télé du coin. Il y a également des hébergements autogérés, en gros des squats. Petit rappel, pour avoir des infos sur les squats ici et ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir sur fr.squat.net. Fr.squat.net, et si vous lisez l'anglais, si vous lisez l'espagnol, l'allemand, le grec, ou je ne sais pas quelle autre langue, eh bien il y a plein d'autres sites sur squat.net avec des langues différentes, puisque tout ce beau monde est souvent internationaliste. Il existe également des cuisines sociales autogérées permettant de nourrir ceux qui en ont besoin. Des collectifs contre les expulsions pour le soutien des prisonniers politiques qui sont nombreux en Grèce, puisque le combat contre l'État vous amène parfois en prison. C'est le cas également en France, surtout quand les dossiers sont montés de toutes pièces. Et bien c'est de tout cela dont nous parlerons, on entendra Yanis Youlountas nous parler de politique, de gentrification, de plage, de squat, on l'a déjà dit, d'internationalisme dans les prochaines fois. C'est pas tout à fait fini parce qu'on va vous donner des informations sur ce qui se passe dans, dans le Mans, notamment. Samedi 11 janvier, manifestation à 14h place de la République contre les interventions de l'armée israélienne un petit peu partout. Ça nous permet de donner l'information qui est tombée cette semaine. Une étude publiée par The Lancet estime que le nombre de morts à Gaza est sous-estimé de 40%. Et pourtant, on a entendu plein de gens dire « c'est multiplié par 10, mais comment croire le Hamas ?» Mais et patati et patata. Avec un bilan probable de 64 260 décès entre le 7 octobre 2023 et le 30 juin 2024, alors qu'il en était annoncé à cette époque environ 45 000. Tout va bien. En plus, même quand on atteint le stade de l'horreur, déjà qu'on se disait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop les chiffres annoncés par les autorités de la bande de Gaza, eh bien en plus c'est sous-estimé. Pour l'instant, je n'ai pas reçu l'information, mais je pense que The Lancet va se faire traiter d'antisémite incessamment sous peu. Donc samedi 11 janvier, manifestation à 14h place de la République. Dans la foulée, samedi 11 janvier 2025 à 14h30, place de la République également, rassemblement de cyclistes pas contents à l'initiative de Cyclamen, l'association qui promeut la création des chronolignes, ouais, mais s'aperçoit tout à coup que les promesses de prise en compte des cyclistes durant les travaux, c'était du bidon. Et depuis que les travaux ont commencé, pas d'amélioration pour ceux qui circulent à vélo, malgré les demandes réitérées de Cyclamen aussi. Cyclamen appelle à se montrer samedi 11 janvier à 14h30, place de la République au Mans. Mardi 14 janvier à 18h30 à l'espace bis de la librairie Bulle, c'est rue Saint-Martin au Mans. L'association Attaque propose une séance de discussion et dédicace autour de la bande dessinée intitulée « Comment les riches ravagent la planète », sous-titré « Et comment les en empêcher ?». Cette séance se fera en présence des auteurs Hervé Kampf, le fondateur du média indépendant Reporter et qui a écrit un livre qui s'intitulait « Comment les riches détruisent la planète ». Ah ben là, c'est ravage. qui avait écrit ce livre servant de base à la BD. Le livre avait été écrit en 2007 et depuis, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Donc, en présence de Hervé Kampf et de l'illustrateur Juan Mendez, donc mardi 14 janvier 2025 à 18h30 à l'espace BIS de la librairie Bulle. Et pour en savoir plus, procurez-vous le bouquin de Hervé Kampf, la BD, et allez aussi sur le site d'Oxfam France, Oxfam qui travaille sur le sujet de la pollution des riches depuis plusieurs années. En octobre 2024, un rapport de Oxfam permis de savoir, je cite le titre de l'article de présentation du rapport, « Les milliardaires émettent plus de carbone en 90 minutes qu'une personne dans la moyenne mondiale pendant toute sa vie. » Ça fait peur. Et on vous rappelle que le 16 janvier, à l'Allumette, à 18h30, il y a une réunion du collectif Écologie sociale et communalisme. On vous enjoint à aller y faire un petit tour. Peut-être qu'on s'y croisera. Bon, bah, en attendant tout ça, je vous dis tout simplement allez, au revoir.